Cicéron, Laelius ou Dialogue sur l'amitié, adressé à Titus Pomponius Atticus. Quintus Mucius Scaevola, l'augure, avait coutume de raconter avec beaucoup de mémoire et d'agrément une infinité de choses de son beau-père, Caius Laelius, à qui sans hésiter il donnait toujours le nom de sage. Lorsque je pris la robe virile, mon père me mit sous la protection de Scaevola d'une manière si spéciale que tant que je pouvais et qu'il m'était permis, je ne quittais jamais les côtés de ce vieillard. Je gravais dans mon esprit ses raisonnements pleins de justesse, ses sentences courtes et ingénieuses, et je tâchais de m'enrichir de ses lumières et de sa sagesse. Après sa mort, je m'attachai à Scaevola le pontife, que je ne crains pas de regarder comme un des hommes les plus éclairés et les plus vertueux de son siècle. Mais j'en parlerai ailleurs, je ne m'occupe ici que de l'augure. Je me souviens, entre autres choses, qu'assis un jour dans son hémicycle, suivant sa coutume, au milieu d'un petit nombre d'amis avec lesquels je me trouvais chez lui, il vint à parler d'une nouvelle qui faisait alors le sujet de presque toutes les conversations. Vous n'avez pas oublié sans doute, Atticus, et vous devez vous en souvenir d'autant mieux que vous fréquentiez beaucoup Publius Sulpicius, vous n'avez pas oublié l'étonnement et les murmures du public lorsque Sulpicius, alors tribun du peuple, déclara une haine mortelle au consul Quintus Pompée avec qui il avait été lié d'une amitié si étroite. Scaevola, étant donc tombé sur ce sujet, nous rapporta ce que Laelius avait dit sur l'amitié devant lui et son autre gendre, Caius Fannius, fils de Marcus, peu de jours après la mort de Scipion l'Africain. J'ai retenu les principales idées de leur entretien, et je les expose ici en me permettant seulement de les revêtir de mes expressions. Je les fais parler eux-mêmes pour éviter les répétitions de dis-je, dit-il, et donner plus de vie au discours en mettant, pour ainsi dire, les personnages sous les yeux. Vous m'avez souvent engagé, Atticus, à écrire sur l'amitié. Un tel sujet m'a paru digne à la fois et de la curiosité publique et de l'intimité qui nous unit. Je me suis donc sans peine décidé, sur vos exhortations, à faire un ouvrage qui pourra être utile à plusieurs. Dans le traité de la vieillesse qui vous est adressé, j'ai choisi le vieux Caton pour interlocuteur, parce que personne ne m'a paru plus propre à parler de cet âge que celui dont la vieillesse avait été si longue et si florissante. De même, dans ce livre, d'après l'amitié mémorable qui exista entre Publius Scipion et Caius Laelius, j'ai cru devoir mettre dans la bouche de ce dernier la dissertation sur l'amitié que Scaevola se souvenait de lui avoir entendu faire. Ce genre de discours, ainsi étayé de l'autorité des anciens, quand ce sont des hommes illustres, semble, je ne sais comment, avoir plus de gravité. Moi-même, lorsque je lis mon traité de la vieillesse, je me fais quelquefois illusion jusqu'à croire que c'est Caton qui parle et non pas moi. Dans ce livre, un vieillard écrivait sur la vieillesse à un autre vieillard. Dans celui-ci, c'est le plus tendre ami qui écrit sur l'amitié à son ami. Là, c'est Caton qui parle, l'homme le plus sage et presque le plus vieux de son temps. Ici, c'est Laelius, également célèbre par sa sagesse et par la gloire de l'amitié, qui raisonne sur l'amitié. Ne pensez plus à moi maintenant pour n'entendre que Laelius. Caius Fannius et Quintus Mucius Scaevola se rendent chez leur beau-père après la mort de l'Africain. Ils ouvrent le discours. Laelius continue, leur discussion roule tout entière sur l'amitié. En la lisant, vous allez vous y reconnaître vous-même. Fannius. Oui, sans doute, Laelius, jamais homme ne fut plus grand ni plus vertueux que l'Africain. Mais à présent, n'en doutez pas, tous les regards se portent sur vous. C'est à vous seul qu'on va devoir donner le nom de sage. De nos jours, Cato a obtenu ce titre. Nous apprenons que nos pères le donnèrent aussi à Lucius Attilius, mais l'un et l'autre le mérita pour une raison différente. Attilius le dut à sa profonde connaissance du droit civil. Cato, à sa grande expérience, à sa prévoyance admirable, à la fermeté, à l'éloquence qu'il avait souvent fait briller au forum comme dans le Sénat. De là vint dans sa vieillesse le surnom de sage qu'on s'accoutumait à lui donner. Pour vous, un autre motif encore vous l'a fait obtenir. Ce n'est pas seulement à votre caractère et à vos qualités naturelles, c'est aussi à vos études et à vos principes que vous le devez. Et si on vous le donne, ce n'est pas dans le sens du vulgaire, c'est dans celui des gens instruits, et comme il ne convient à aucun homme de la Grèce. Car ceux qui raffinent sur cette matière le refusent aux sept sages eux-mêmes. À Athènes, un seul homme le mérita, et c'est celui que l'apocryphe d'Apollon déclara le plus sage. Votre sagesse, à vous, de l'aveu de tout le monde, est celle qui consiste à ne dépendre que de soi et à s'élever par la seule vertu au-dessus de tous les événements humains. On me demande donc, et assez voilà aussi, je pense, de quelle manière vous supportez la mort de l'Africain. On nous le demande surtout depuis qu'au dernier nonne, nous étant tous rendus dans les jardins de l'augure Decius Brutus pour nos conférences ordinaires, vous ne vous y êtes point trouvé, vous qui, à pareil jour, n'aviez jamais manqué de remplir un tel devoir. Scaevola. Oui, Decius, beaucoup de gens me font cette demande, comme vous l'a dit Fannius, et je réponds que vous supportez avec modération, comme j'ai cru m'en apercevoir, la douleur que vous a causée la mort d'un ami aussi cher et d'un personnage aussi illustre, que vous n'êtes pas assez insensible pour n'en être point affecté, mais que, si vous n'avez pas assisté à notre assemblée des dernières nonnes, la cause en est au dérangement de votre santé et non à l'excès de votre affliction. Lélius. Vous avez raison, Scaevola. Je n'ai pas dû, pour une perte qui m'est particulière, manquer un devoir que j'ai toujours rempli avec zèle quand ma santé me l'a permis. Et je ne pense pas que dans aucun cas un homme grave doive interrompre ses fonctions. Pour vous, Fannius, lorsque vous dites qu'on m'accorde une gloire à laquelle je ne prétends point et où je ne puis me reconnaître, c'est l'amitié qui vous fait parler ainsi. Mais il me semble que vous ne rendez pas à Caton toute la justice qu'il mérite. Où il n'y a jamais eu de sage, comme je le croirais plus tôt, ou s'il en a existé quelqu'un, c'est Caton. Pour ne citer de lui qu'un seul trait, comment supporta-t-il la mort de son fils? J'avais ouï parler de Paul-Émile, j'avais vu Gallus, mais il n'avait perdu que des enfants et Caton avait vu mourir un fils déjà illustre. Gardez-vous donc bien de mettre personne au-dessus de lui, non pas même celui qu'Apollon déclara le plus sage. Si celui-ci est célèbre par ses paroles, Caton l'est par ses actions. Je vous réponds maintenant à tous les deux, voici ce que vous devez penser de moi. Si je disais que je n'ai pas été affecté de la mort de Scipion, ce serait au sage à voir jusqu'à quel point je serais digne de leurs éloges, mais certainement je mentirais. Oui, je suis vivement touché de la perte d'un ami comme il n'y en aura jamais, je crois, et comme, j'ose l'assurer, il n'y en a jamais eu. Mais je n'ai besoin des consolations de personne. J'en trouve assez en moi-même, et la plus grande me vient de ce que je suis exempt d'une erreur qui en tourmente tant d'autres lorsqu'ils viennent à perdre leurs amis. Je ne pense point que la mort soit un mal pour Scipion. S'il y en a, ce n'est que pour moi. Or, s'affliger de ses propres maux est amour de soi et non pas amitié. Qui osera dire que Scipion ait eu à se plaindre de sa destinée, à moins de désirer l'immortalité, ce qui n'entra jamais dans son esprit, à quoi l'homme peut-il aspirer, où il ne soit parvenu? Dès son enfance, il fit concevoir de lui à ses concitoyens les plus hautes espérances et les suppassa ensuite, dans sa jeunesse, par la plus éclatante vertu. Il ne demanda jamais le consulat, et il fut deux fois consul, d'abord avant l'âge prescrit, puis en son temps, et presque trop tard pour la République. Il vainquit et renversa les deux villes qui étaient les plus dangereuses, ennemies de cet empire, et nous délivra par là des guerres présentes et futures. Que dirais-je de ses mœurs si faciles, de sa piété filiale envers sa mère, de sa libéralité à l'égard de ses sœurs, de sa bonté pour les siens, de sa justice envers tous? Ce sont des choses qui vous sont connues, et le deuil de ses funérailles a prouvé combien il était cher aux Romains. Et quel plaisir aurait-il eu de vivre quelques années de plus? Quoique la vieillesse ne soit pas à charge, comme je me souviens que Caton, un an avant sa mort, nous le prouva à Scipion et à moi. Cependant, elle éteint cette vigueur dont Scipion jouissait encore. Non, rien n'a manqué ni à sa vie, ni à sa fortune, ni à sa gloire. La promptitude de sa mort lui en a ôté le sentiment. On ne sait que dire de ce genre de mort. Vous savez ce que le public en soupçonne. Ce qu'il est permis de dire avec vérité, c'est qu'entre les jours les plus beaux et les plus heureux pour Scipion, le plus glorieux, sans doute, a été la veille de sa mort, lorsque les pères conscrits, le peuple romain, les alliés, les peuples du Latium, le reconduisirent en triomphe du Sénat à sa maison. Il semble qu'après ce jour, il n'a pu descendre dans les demeures souterraines, et que ce haut degré de gloire était déjà un pas vers les cieux. En effet, je ne partage nullement l'opinion de ceux qui se sont mis tout récemment à soutenir que l'âme périt avec le corps et que la mort détruit tout l'homme. J'en crois de préférence le témoignage des anciens et celui de nos pères qui ont rendu aux morts les honneurs religieux. Ce qu'ils n'eussent point fait assurément s'ils avaient été persuadés de l'immortalité de l'âme. J'en crois ces philosophes qui vécurent autrefois en Italie et qui éclairèrent la grande Grèce, aujourd'hui déchue, alors si florissante, de leurs préceptes, de leurs doctrines. J'en crois l'autorité de celui que l'oracle d'Apollon déclara le plus sage des hommes. On ne voyait point Socrate hésiter et varier sur ce point comme sur la plupart des autres, mais il soutenait constamment que nos âmes sont des substances divines, qu'en sortant des corps, elles prennent leur essor vers le ciel, et que cet essor est d'autant plus rapide qu'elles ont été plus justes et plus pures. Scipio pensait de même. Peu de jours avant sa mort, comme il s'en avait eu le pressentiment, en présence de Philus, de Manilius et de plusieurs autres, vous y étiez aussi venu avec moi, ces voilà. Il discourut pendant 3 jours sur la République, et il finit par l'épreuve de l'immortalité de l'âme, telle, disait-il, que le premier Africain la lui avait exposée dans un songe où il lui apparut. Or, s'il est vrai que l'âme de l'homme de bien s'échappe plus facilement de la prison et des liens du corps, quelle âme a pris vers les cieux un vol plus rapide que celle de Scipion? Je craindrais donc, en m'attristant d'un tel événement, de montrer plus d'envie que d'amitié. S'il était vrai, au contraire, que l'âme périt avec le corps et que tout sentiment s'éteignit pour jamais, la mort ne serait pas plus un mal qu'un bien? Et ce serait absolument comme si on n'avait point vécu. La vie de Scipion n'en sera pas moins pour nous et pour hommes, tant qu'elle existera, un sujet d'allégresse. Il n'a donc point, je le répète, à se plaindre de sa destinée. Et sa mort n'a été un mal que pour moi, qui aurais dû le premier sortir de la vie, comme j'y étais entré le premier. Toutefois, je jouis tant par le souvenir de notre ancienne amitié, que ma vie me semble fortunée puisque je l'ai passée avec lui. Tout a été commun entre nous. Les soins domestiques et les affaires publiques. Même maison à Rome, même camp à la guerre. Et ce qui fait surtout la force de l'amitié, Nous n'eûmes jamais qu'une même volonté, que les mêmes affections, les mêmes sentiments. Aussi, je vous l'avouerai, je suis beaucoup moins flatté de cette réputation de sagesse dont vient de me parler Fannius, surtout ne la méritant pas, que de l'espoir que notre amitié vivra jamais dans la mémoire des hommes. Cette pensée m'est d'autant plus chère à mon cœur que toute la suite des siècles passés nous offre à peine 3 ou 4 exemples d'une véritable amitié. J'espère que, sous ce rapport, l'amitié de Scipion et de Lélius ne sera pas ignorée de la postérité. Fannius. Ce que vous espérez, Lélius, ne peut manquer d'arriver. Mais puisque vous en êtes sur l'amitié et que nous en avons le loisir, vous me feriez un extrême plaisir, ainsi qu'à ces vols-là, je pense, de nous communiquer vos idées et vos principes sur l'amitié, comme vous le faites sur toute autre chose, quand nous vous en prions. Ces vols-là. Oui, sans doute, ce sera un extrême plaisir pour moi, et j'allais vous en prier lorsque Fannius m'a prévenu. Vous ferez donc en cela une chose qui nous sera fort agréable à tous les deux. Lélius. Je le ferais sans peine, si je m'en sentais les moyens. Car le sujet est beau, et nous en avons le loisir, comme dit Fannius. Mais qui suis-je, moi, et quels sont mes talents? C'est assez la coutume des savants, et principalement des Grecs, de traiter ainsi sur le champ tous les sujets qu'on leur propose. Cette tâche est difficile. Et pour la remplir, il ne faut pas être médiocrement exercé. Je suis donc d'avis que vous vous adressiez à ceux qui font métier de ces discussions, pour savoir tout ce qu'on peut dire sur l'amitié. Pour moi, je ne puis que vous exhorter à la préférer à tout dans la vie. Rien n'est en effet plus conforme à notre nature, rien n'est plus utile, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Mais je pense d'abord que l'amitié ne peut exister qu'entre les honnêtes gens, et je n'attache pas à ce dernier mot la signification juste peut-être, mais sans utilité publique, mais trop rigoureuse, que des esprits subtils lui ont donnée en avançant que le sage seul était honnête homme. Je veux encore que cela soit vrai, mais ensuite ils définissent le sage de manière qui n'en serait jamais exister. Nous devons, nous, considérer les choses telles qu'elles sont dans l'usage, dans la vie commune, et non telles qu'on les feint, qu'on les imagine, dans, oui, ou qu'on les désire. Sans doute les Fabricius, les Marcus Curius, les Tiberius Coruncanius, qui étaient regardés par nos pères comme autant de sages, ne l'auraient jamais été d'après la règle de ces philosophes. Qu'ils gardent pour eux leur définition du sage, elle est pour nous trop obscure et trop exclusive. Et qu'ils nous accordent que c'était là d'honnêtes gens. Mais ils n'en feront rien. Ils soutiendront qu'il y a d'honnêtes hommes que le sage. Allons donc terre à terre, comme on dit. Et tous ceux qui, dans leurs actions et toute leur conduite, ne montrent que bonne foi, intégrité, justice, générosité, sans mélange de cupidité, de passion honteuse ou violente, qui sont invariables dans leurs principes comme les Romains que je viens de nommer, honorons-les d'un titre que la voie publique leur donne, et appelons-les honnêtes gens, parce qu'ils suivent, autant que le peuvent les hommes, la meilleure règle pour bien vivre, la nature. Il me semble en effet que les hommes sont nés pour vivre en société, et qu'ils doivent être d'autant plus amis que la nature les rapproche davantage. Que par conséquent, nous devons plus tenir à nos concitoyens qu'aux étrangers, à nos parents qu'à ceux qui ne le sont pas. L'union entre les parents est donc formée par la nature même, mais ce n'est pas la plus solide. L'amitié l'emporte sur la parenté en ce que la bienveillance est essentielle à l'une et qu'elle n'est pas inséparable de l'autre. Ôtez la bienveillance, la parenté reste, mais l'amitié disparaît. Or, ce qui peut donner surtout une idée de la force de l'amitié, c'est que dans cette immense société du genre humain, formée par la nature, L'amitié restreint et resserre de telle sorte le cercle de nos sentiments, et cette affection qui nous fut donnée pour l'universalité des hommes, qu'elle la concentre dans deux amis ou dans un très petit nombre d'amis. L'amitié n'est autre chose que le parfait accord de deux âmes sur les choses divines et humaines avec une bienveillance et une affection mutuelle. Je la regarde, après la sagesse, comme le plus beau présent que l'homme ait reçu des dieux. Les uns préfèrent les richesses, les autres la bonne santé, ceux-ci le pouvoir, ceux-là les honneurs, et plusieurs les plaisirs. Ce dernier goût est digne de la bête, et les autres choses sont incertaines, périssables, et dépendent moins de nous que du caprice de la fortune. Ceux-là seuls sont les plus sages qui placent le souverain bien dans la vertu, mais c'est elle qui fait naître et entretient l'amitié, car sans la vertu, il ne peut être d'amitié véritable. Et n'attachons ici au mot de vertu que le sens que nous lui donnons dans l'usage de la vie et dans nos discours, sans la définir par les termes magnifiques de quelques philosophes. Comptons au nombre des gens de bien ceux qui sont regardés comme tels, les Pauls, les Catons, les Gallus, les Scipions, les Philus. On se contente de semblables gens de bien dans la vie commune, et ne parlons pas de ceux qu'on ne trouve nulle part. L'amitié entre de tels hommes produit tant d'avantages qu'il me serait difficile d'en faire l'énumération. D'abord, est-il un homme pour qui vivre soit réellement vivre, comme dit Ennius, s'il n'a pas à se reposer quelquefois dans le sein d'un ami? Quoi de plus doux que d'avoir quelqu'un avec qui l'on puisse s'entretenir comme avec soi-même? Quelles seraient nos jouissances dans la prospérité si nous n'avions personne pour les partager? Et comment supporteriez-vous les maux de l'adversité si votre ami ne s'en affligeait plus que vous-même? Enfin, tous les autres objets de nos désirs sont presque bornés, chacun à leur utilité propre. Nous devons aux richesses les commodités de la vie, au crédit les respects, aux honneurs la louange, au plaisir la joie, à la santé l'absence de la douleur et le libre usage des facultés physiques. L'amitié seule réunit une foule de biens et d'agréments. De quelque côté que vous tourniez vos regards, partout elle se présente à vous. Nulle part elle n'est étrangère, jamais hors de saison, jamais importune. Le feu et l'eau, comme on dit, ne sont pas d'un plus grand usage. Je ne parle pas dans ce moment de l'amitié vulgaire ou médiocre, qui a pourtant ses plaisirs et ses avantages, mais de l'amitié vraie et parfaite, comme celle d'un petit nombre d'amis illustres. C'est alors surtout que l'amitié ajoute à l'éclat de la prospérité et diminue, en les partageant, les maux de l'adversité. Parmi les grands et nombreux avantages que procure l'amitié, le plus précieux, sans doute, est de le faire luire à nos yeux dans l'avenir. La douce espérance est de ne pas souffrir que notre courage succombe sous le poids des revers. Avoir un ami, c'est avoir un autre soi-même. L'amitié rapproche les absents, enrichit l'indigence, donne des forces à la faiblesse, et pour dire quelque chose de plus, elle fait revivre les morts dans le respect, le souvenir et les regrets de leurs amis. Il semble que ce soit une douceur pour celui qui n'est plus. C'est du moins une gloire pour celui qui survit. Ôtez de la nature ce doux commerce d'affection. Plus de famille, plus de cité. Les champs mêmes vont rester sans culture. Ce qui fait mieux sentir encore la puissance de l'amitié et de la concorde, c'est l'effet des dissensions domestiques ou civiles. Quelle est la maison si solide, quel est l'état si bien constitué que les haines et les querelles intestines ne puissent renverser? On peut juger par là quels sont les heureux fruits de l'amitié. On dit qu'un savant d'Agrigente, dans un poème grec rempli d'enthousiasme, nous a fait voir tout ce qui existe dans la nature et dans l'univers entier, ou en repos, ou en mouvement, réunis par la sympathie et séparés par l'antipathie. Et c'est une vérité reconnue par tous les hommes et confirmée par l'expérience. Si quelqu'un en effet brave les plus grands périls pour son ami ou veut les partager avec lui, est-il un seul homme qui refuse à ce dévouement son admiration et ses éloges? Quels applaudissements ne fit-on pas entendre dernièrement à la nouvelle pièce de Pacuvius, mon hôte et mon ami, lorsque le roi, ignorant lequel des deux est Oreste, Pilate s'écrie que c'est lui, afin de subir la mort pour son ami, tandis qu'Oreste, au contraire, soutient, comme il est vrai, que lui seul est Oreste. Les spectateurs applaudissent à une fiction. Qu'eussent-ils fait pour une réalité? La nature manifestait ainsi toute sa force, car bien des hommes applaudissaient alors comme une belle action dans autrui, ce qu'ils ne seraient pas capables de faire eux-mêmes. Mais il me semble que j'en ai dit assez pour vous faire connaître ce que je pense sur l'amitié. Si vous en désirez davantage, je crois en effet qu'il y a encore beaucoup à dire, adressez-vous aux philosophes qui ont l'habitude de ces discussions. Je les ai souvent consultés et j'ai pris plaisir à leurs réponses, mais nous aimons mieux vous entendre vous-même. Nous vous prions de suivre le fil de votre discours. C'est voilà. Vous insisteriez bien davantage, Fannius, si vous aviez assisté dernièrement dans les jardins de Scipion à la discussion qui eut lieu sur la République. Avec quelle chaleur Lélius défendit la justice contre le discours captieux de Philus. Et certes, il n'est pas difficile au plus juste des hommes de plaider la cause de la justice. Que sera de l'amitié? Cela peut-il être difficile à celui qui s'est acquis la plus grande gloire en la cultivant avec la fidélité, la constance et la probité la plus parfaite? Lélius. En vérité, c'est me faire violence. Qu'importe en effet la manière dont vous me contraignez. Ce n'est pas moi une véritable contrainte. Est-il aisé, serait-il même juste, de se refuser au désir de deux gendres, qui n'ont d'ailleurs que les plus honorables intentions? Lorsque je réfléchis sur l'amitié, ce qui m'arrive très souvent, une question qui me paraît importante, c'est de savoir si elle doit son origine à la faiblesse et aux besoins, et si les hommes n'y ont cherché qu'un commerce réciproque de services, afin de trouver en autrui ce qu'ils ne pourraient avoir par eux-mêmes et de payer à leur tour ces services par des bienfaits semblables. Ou, si ces bons offices n'étant regardés que comme une suite de l'amitié, elle a réellement une autre origine et plus ancienne et plus noble et plus naturelle. Je crois que parmi les raisons qui peuvent faire qu'on se veuille du bien l'un à l'autre, la principale est de s'aimer. Et c'est d'aimer que vient le mot « amitié ». Il est bien une amitié feinte, stimulée, qu'on cultive pour un temps dans la vue d'obtenir par elle quelques avantages. Mais la véritable amitié n'a rien de fin, rien de simulé. Tout en elle est vrai, toute part du cœur. L'amitié me paraît donc avoir plutôt son principe dans la nature que dans notre faiblesse. Elle est plutôt l'effet d'un sentiment d'affection, d'une certaine sympathie qu'une combinaison d'intérêts. Nous pouvons nous faire une idée de ce qu'elle est, par ce qui s'aperçoit aisément dans l'amour passager de certains animaux pour leurs petits et dans celui qui leur inspire. C'est ce qu'on voit encore plus clairement dans l'homme, d'abord par cette tendresse qui unit les enfants et leurs parents, et dont le nœud ne peut être rompu que par un crime détestable. Ensuite, par le sentiment d'affection que nous éprouvons lorsque nous venons à rencontrer un homme dont le caractère et les mœurs nous conviennent, parce qu'il nous semble voir comme reluire en lui la probité et la vertu. Rien n'est en effet plus aimable que la vertu. Rien n'attire davantage l'amour des hommes, puisque nous chérissons en quelque sorte pour leur vertu et leur probité, ce même que nous n'avons jamais vu. Pouvons-nous penser, sans un sentiment de bienveillance et d'affection, à Caius Fabricius, à Marcus Cullius, mort si longtemps avant votre naissance, qui ne est, au contraire, un Tarquin le Superbe, un Spurius Cassius, un Spurius Melius. Nous avons eu à disputer l'Empire au sein même de l'Italie contre deux généraux, Pyrrhus et Hannibal. La probité de l'un nous fait comme une loi de l'estimer, tandis que la cruauté de l'autre le rendra toujours odieux au peuple romain. Si la probité a un tel ascendant sur nous, qu'elle se fasse elle-même même dans ceux que nous n'avons jamais vus, et, ce qui est encore plus fort, dans nos propres ennemis, qu'y a-t-il d'étonnant qu'un homme se sente ému lorsqu'il découvre la bonté et la vertu dans celui dont il peut faire son ami? L'amitié, toutefois, se fortifie par les services rendus, par l'épreuve de zèle, par l'habitude, enfin. Et tout cela, joint à ce premier mouvement sympathique, produit une bienveillance admirable et l'attachement le plus profond. Ceux qui prétendent que ce sentiment si pur dérive de notre faiblesse et du désir de trouver dans un ami les ressources qui nous manquent, lui donnent une origine, si j'ose le dire, bien ignoble, puisqu'ils le font naître de l'indigence et de la misère. S'il en était ainsi, plus un homme se sentirait faible, plus il serait propre à l'amitié, ce qui est bien loin d'être vrai. Au contraire, ceux qui sentent le mieux leur force, qui par leur sagesse et leur vertu trouvent en eux-mêmes toutes leurs ressources et n'ont besoin de personne, ceux-là excellent à contracter et à cultiver une amitié. Quel besoin avait de moi l'Africain ? Aucun, sans doute, et je n'avais pas plus besoin de lui. Mais je l'aimais parce que j'admirais sa vertu, et il m'aima, par la bonne opinion peut-être, qu'il avait de mon caractère. L'habitude augmenta, depuis, cette bienveillance mutuelle. Mais quoique nous ayons trouvé de grands avantages dans notre amitié, ce n'est nullement cet espoir qui l'a fit naître. Lorsqu'on est bienfaisant et libéral, ce n'est pas pour qu'on le soit à notre égard. Faire le bien n'est pas prêter à usure, c'est suivre un penchant naturel. Ainsi, nous cherchons dans l'amitié non pas l'espérance de quelque profit, mais ce qui vient d'elle-même, l'avantage d'aimer et d'être aimé. Oh, ce n'est pas ainsi que raisonnent ceux qui, comme les bêtes, rapportent tout au plaisir des sens. Et je n'en suis pas étonné. Ces hommes-là ne peuvent rien concevoir d'élevé, de magnifique, de divin, puisqu'ils ont rabaissé toute leur pensée à un objet si honteux et si méprisable. Ici donc, nous ne devons pas même nous occuper d'eux. Mais pénétrons-nous bien de cette vérité, que c'est la nature qui fait naître le besoin de s'aimer, la bienveillance mutuelle, sur les fondements de la probité. L'homme qui s'est une fois voué au culte de l'amitié met tous ses soins et toute son application à se rapprocher de celui qui a commencé de chérir, à jouir de sa société, à lui inspirer une affection égale à la sienne, et il se sent plus de penchant à lui rendre qu'à réclamer les services. Il s'établit ainsi entre eux un combat de générosité. C'est de cette manière que l'amitié procure en effet les avantages les plus précieux, quoiqu'elle n'ait pas d'autre origine que la nature même, origine plus noble et plus pure que ne le serait la faiblesse. Si l'intérêt formait le nœud de l'amitié, l'intérêt venant à changer ne pourrait manquer de la rompre. Mais la nature, ne pouvant changer la véritable amitié, est éternelle. Vous voyez par là quelle est son origine ? Auriez-vous quelque chose à dire ? Fannius. Nous vous prions de continuer, Lélius, en répondant pour ces vols-là, je le fais qu'user de mon droit d'aînesse. Ces vols-là. Vous pouviez mieux répondre, écoutons. Lélius reprend la parole. Écoutez donc les réflexions qu'il nous est souvent arrivé à Scipion et à moi de faire sur l'amitié. Il disait qu'il était bien difficile qu'elle se soutînt jusqu'à la mort, soit parce qu'il peut venir un moment où les intérêts se contrarient, soit parce qu'on est divisé d'opinion sur les affaires publiques. Il disait encore que les hommes changent souvent de mœurs, les uns dans l'adversité, les autres dans l'âge avancé. Et il citait, pour exemple, les enfants, qui presque toujours dépouillent avec la robe prétexte les plus vives affections de leurs premières années, si même elles se conservent jusqu'à l'adolescence, il suffit alors quelquefois pour les détruire d'une rivalité d'amour ou d'une concurrence d'intérêts. Et si quelques-unes s'étendent plus loin, elles viennent souvent expirer dans la poursuite d'une même dignité. Il disait surtout que le poison le plus funeste à l'amitié, c'est la passion de l'argent dans la plupart des hommes. Et dans les caractères plus élevés, la rivalité des honneurs et de la gloire. Combien de fois n'a-t-on pas vu, à la suite de ces luttes d'ambition, la plus grande haine succéder à la plus grande amitié ? Un autre sujet, ajoutait-il, de ruptures éclatantes et ordinairement légitimes, c'est qu'il y a des hommes qui exigent de leurs amis des choses contre l'honnêteté, comme d'être les ministres de leur libertinage ou les complices de leurs injustices. Quelque bon droit que leurs amis aient de s'y refuser, ils sont accusés par eux de trahir les devoirs de l'amitié. L'homme qui ose demander à son ami toute espèce de service déclare par là qu'il est capable de se prêter pour lui à quoi que ce puisse être. C'est pour de telles causes qu'on voit souvent s'éteindre les amitiés les plus anciennes, qui souvent même font place à des haines éternelles. Il concluait que l'amitié, étant environnée de tant d'écueils, il fallait, pour les éviter, autant de bonheur que de sagesse. Voyons donc, premièrement, si vous le voulez bien, jusqu'où doit aller le zèle de l'amitié. Si, par exemple, Coriolan avait des amis, ses amis devaient-ils prendre avec lui les armes contre sa patrie ? Lorsque Vicellinus, lorsque Spurius Melius aspirèrent à la royauté, leurs amis devaient-ils seconder leur dessein ? Nous voyons, du moins, que lorsque Tiberius Gracchus commença à troubler la République, il fut abandonné par Quintus Tubero et par d'autres amis de son âge. Mais Caius Biosius de Cum, l'hôte de votre famille, s'évola, étant venu me solliciter, comme j'assistais les consuls Lénas et Rapilius dans l'instruction de cette affaire, il m'alléguait pour excuse qu'il avait tant d'estime pour Tiberius Gracchus qu'il n'avait pas cru devoir se refuser à rien de ce qu'il voulait. Vous auriez donc mis le feu au Capitole s'il l'avait voulu ? Jamais, dit-il, il n'aurait eu cette pensée, mais enfin, s'il l'avait voulu, je lui aurais obéi. Avez-vous entendu ce mot horrible ? Et en effet, il agit en conséquence, et alla même encore plus loin, car il ne seconda pas seulement l'audace de Tiberius Gracchus, il donna lui-même l'exemple de la témérité, et dans ses troubles, il figura plutôt comme chef que comme complice. Au milieu de ces idées extravagantes, effrayé des nouvelles informations dirigées contre les factieux, il s'embarqua pour l'Asie, se réfugia chez les ennemis de Rome et trouva enfin la juste peine de son crime envers la République. L'amitié ne peut excuser en aucune manière le mal qu'on fait pour elle, parce que la vertu étant le fondement de l'amitié, si l'on renonce à l'une, l'autre ne saurait plus subsister. Établir en principe que nous devons accorder à nos amis tout ce qu'ils veulent et obtenir de tout ce que nous voulons ne pourrait avoir sans doute de suite fâcheuse si la vertu réglait tous nos désirs. Mais nous perdons des amis qui sont devant nos yeux, que nous voyons ou dont nous connaissons l'histoire et que l'on trouve dans le commerce ordinaire de la vie. Prenons là nos exemples et imitons surtout ce qui approche le plus de la sagesse. Nos pères nous ont appris l'amitié qui existait entre Aemilius Papus et Caius Licinius. Ils furent deux fois collègues dans le consulat et une fois dans la censure. Nous savons aussi qu'ils étaient étroitement liés avec Marcus Curius et Tiberius Coroctanius, unis de leur côté par le plus intime amitié. Eh bien, pouvons-nous soupçonner qu'un seul de ces grands personnages ait exigé de son ami quelque chose de contraire à sa conscience, à ses serments, à la République? Dès que le pareil homme l'aurait refusé, dire cela me paraît chose superflue, puisqu'ils étaient tous incorruptibles, et qu'il est également criminel de faire ou d'exiger rien de tel. Des citoyens moins sages, Caius Carbone et Caius Caton, s'obstinèrent à suivre Tiberius Gracchus. Pour Caius, son frère, qui est aujourd'hui si ardent, on ne parlait pas encore de lui. Nous établirons donc pour première loi de l'amitié de ne demander de n'accorder à son ami rien qui soit contraire à l'honneur. Dans toutes sortes de fautes et surtout dans celles contre l'État, c'est une mauvaise excuse qui n'est nullement recevable de dire qu'on a voulu servir son ami. Nous en sommes venus à ce point, Fannius et Sévola, que nous devons prévoir de loin les dangers qui menacent la République. On a déjà commencé à s'écarter de la discipline et des coutumes de nos ancêtres. Tiberius Gracchus a voulu usurper l'Empire, il a régné même pendant quelques mois. Le peuple romain avait-il jamais rien vu, rien entendu dire de semblable? Je ne puis me rappeler sans verser des larmes tout ce que, depuis sa mort, ses parents et ses amis, marchant sur ses traces, ont fait souffrir à Publius Scipion. Nous avons supporté Caius Carbon comme nous l'avons pu, à cause de la punition récente de Tiberius Gracchus. Je crains de me livrer à mes pressentiments sur le tribunal de Caius Gracchus. Le mal gagne de proche en proche, et quand une fois la corruption s'est fait ressentir, ses progrès sont rapides. Vous voyez combien ont été déjà funestes d'abord la loi Gabinius sur le scrutin, et 2 ans après celle de Cassius. Il me semble déjà voir le peuple en division avec le Sénat, et les plus grandes affaires livrées aux caprices de la multitude. Car beaucoup de gens s'étudieront à faire le mal et peu à le prévenir. Pourquoi cette digression? Parce qu'on n'entreprend jamais rien de semblable sans avoir des complices. Il faut donc avertir les bons citoyens que s'ils se trouvaient unis d'amitié avec de tels hommes, ils ne se crussent pas liés au point de ne pouvoir rompre avec des amis coupable de quelque grand attentat contre la République. Il faut aussi établir des peines qui effraient les méchants et leur annoncer qu'elles ne seront pas moins sévères contre les complices que contre les chefs. Quel homme parmi les Grecs fut plus illustre, plus puissant que Thémistocle? Après avoir vaincu les Perses et délivré la Grèce, l'envie l'ayant fait condamner à l'exil, il ne supporta point, comme il l'aurait dû, l'injustice et l'ingratitude de sa patrie. Il fit ce que 20 ans avant lui avait fait à Rome Coriolan. Personne ne voulut partager leur révolte contre la patrie et tous les deux se donnèrent la mort. Loin donc de couvrir de l'excuse de l'amitié les complices des mauvais citoyens, il faut au contraire leur montrer les châtiments qui les attendent afin que personne ne se croie autorisé à suivre le parti d'un ami qui ferait la guerre à sa patrie. À voir le train que les choses ont commencé de prendre, je n'assurerai pas qu'un tel malheur n'arrivât un jour, et les destinées de la République après ma mort ne m'intéressent pas moins que la situation où elle peut se trouver aujourd'hui. Consacrons donc cette première loi de l'amitié, qu'il faut le demander à nos amis et ne faire pour eux que ce qui est honnête. Mais qu'il faut alors nous conduire avec zèle, sans hésiter, sans attendre qu'ils nous en prient. Empressons-nous aussi de leur donner librement nos conseils. Un ami qui conseille le bien doit avoir sur son ami une grande autorité, qu'ils s'en servent pour l'avertir, non seulement avec franchise, mais même avec force, si le cas l'exige. Pour nous, obéissons toujours à des conseils salutaires. Des hommes, à qui j'apprends que la Grèce donne le nom de sages, ont professé, dit-on, des opinions bien étranges. Qu'y a-t-il au reste qui n'ait été l'objet de leurs arguties? Les uns prétendent, par exemple, qu'on doit éviter les amitiés trop vives, de peur qu'un seul ne soit chargé des sollicitudes de plusieurs, que chacun a assez, trop peut-être, de ses affaires, qu'il est fâcheux de se trouver trop embarrassé dans celle d'autrui, et qu'il est à propos que les nœuds de l'amitié soient lâches, afin de pouvoir les serrer ou les relâcher davantage à son gré. Le grand point, disent-ils, pour vivre heureux, c'est d'être tranquille. Mais comment un homme pourra-t-il l'être s'il porte seul le fardeau de plusieurs? D'autres, et leur opinion que j'ai déjà réfutée en peu de mots, est encore plus déshonorante pour l'humanité. D'autres soutiennent qu'on doit chercher dans l'amitié un support, des ressources, et non l'affection, les plaisirs du cœur. Qu'ainsi, moins on se tente de courage et de force, plus on doit tâcher d'avoir des amis. Et que par cette raison, les secours de l'amitié sont plus désirés par les femmes que par les hommes, par les petits que par les grands, par les pauvres que par les riches. Voilà une belle sagesse. Mais c'est ôter au monde le soleil que d'ôter de la vie l'amitié, le plus doux, le plus beau présent que nous ayons reçu des dieux immortels. Mais qu'est-ce que c'est que cette tranquillité dont il parle? Au premier abord, elle a quelque chose qui séduit, mais on s'aperçoit bientôt qu'elle est souvent incompatible avec nos devoirs. Serait-il raisonnable, par exemple, sous prétexte de tranquillité, de ne point entreprendre une chose honnête ou de l'abandonner après l'avoir entreprise? Si nous fuyons toutes sortes de soins, il faut fuir aussi la vertu, qui nécessairement doit prendre quelques soins de haïr et de combattre les vices, comme la volonté combat la méchanceté, la continence, le libertinage. Le courage, la pusillanimité, c'est ainsi que nous voyons des hommes justes s'affliger des injustices, les braves des lâchetés et les sages des dérèglements. Il est impossible qu'une belle âme ne se réjouisse pas du bien et ne s'afflige pas du mal. Si le sage ne peut être exempt de la douleur, et comment le serait-il à moins d'arracher l'humanité de son cœur? Pourquoi la crainte de nous exposer à quelques peines nous ferait-elle entièrement bannir de la vie l'amitié? Quelle différence y a-t-il si vous ôtez là l'homme le sentiment, je ne dis pas entre l'homme et la brute, mais entre l'homme et une pierre ou un arbre ou toute autre chose inanimée? Il ne faut point s'en rapporter pour la vertu à ceux qui veulent qu'elle soit aussi dure que le fer. Elle est au contraire, en beaucoup d'occasions, et principalement en amitié, tendre et sensible. Elle se dilate, pour ainsi dire, ou se resserre, selon les bons ou les mauvais succès d'un ami. Ainsi, le chagrin que nous cause souvent le sort d'un ami ne doit pas plus nous faire proscrire l'amitié que les soins et les peines qui accompagnent quelquefois la vertu ne nous empêchent d'y rester fidèles. L'amitié venant à se former, comme je l'ai dit plus haut, lorsqu'au signe qui annonce la vertu se joint la conformité du caractère et des sentiments, toutes les fois que ces deux choses se rencontrent, l'affection est la suite nécessaire. Quoi de plus absurde, en effet, que de se complaire dans une foule de choses vaines, telles que la gloire, les honneurs, les édifices, les habits, la parure, et d'être indifférent à la possession d'un cœur qui puisse vous chérir, et si j'ose ainsi parler, vous rendre amour pour amour. Rien n'est plus doux que cette réciprocité de bienveillance, de zèle et de service. Si nous ajoutons à cela, ce qui est très vrai, qu'il n'est rien où la sympathie se fasse mieux sentir que dans l'amitié entre les cœurs qui se ressemblent, nous en conclurons infailliblement que les bons s'aiment et se recherchent entre eux, comme s'ils étaient unis par les liens du sang et par la nature. Il n'est point de plus forte et de plus vive d'abstraction que celle qui s'exerce dans la nature entre les choses qui se ressemblent. Il est donc bien constant, cher Fannius et Cévola, qu'il existe nécessairement une bienveillance mutuelle entre les bons. Et c'est là le principe naturel de l'amitié. Mais cette même bonté peut se répandre sur tous les rangs de la société, car la vertu est douce et humaine, elle n'est ni égoïste ni orgueilleuse. Elle veille souvent au bonheur et à la défense d'un peuple entier, ce qu'elle ne ferait certainement pas si elle n'embrassait tous les hommes dans une même affection. Il me semble encore que cela détruise le nœud le plus aimable de l'amitié qui la font naître de l'intérêt. Dans un ami, le don de son cœur est le plus flatteur des avantages que son amitié puisse nous procurer, et les autres, lorsqu'ils viennent de cette source, en ont plus d'attrait pour nous. Tant s'en faut que le besoin soit l'origine de l'amitié, que les hommes qui, par leur richesse, leur crédit et par la plus sûre des garanties, par leur vertu, ont le moins besoin d'autrui, sont aussi les plus généreux et les plus portés à faire du bien. Je ne sais cependant pas s'il faut que nos amis n'aient aucun besoin de nous. Comment aurais-je fait éclater mon zèle pour Scipion si jamais, ni dans Rome, ni dans les camps, il n'avait eu besoin de mes conseils et de mes secours? Vous voyez que l'utilité dont je parle a été l'effet et nullement la cause de notre amitié. Il ne faudra donc pas écouter ces hommes qui n'ont de pensée que pour la volupté lorsqu'ils viendront à raisonner sur l'amitié, qui ne connaissent ni par expérience ni par principe. Et quel est l'homme, grand Dieu, qui voudrait acheter toutes les richesses et toutes les jouissances possibles au prix du bonheur d'aimer et d'être aimé? Telle est la vie des tyrans. Toute affection, toute confiance en est bannie. Tout y est soupçon, inquiétude. Il n'y a nulle place pour l'amitié. Quel homme peut aimer en effet celui qu'il redoute ou dont il croit être redouté? Cependant, on sauve les dehors, on leur rend des soins tant qu'ils ont la puissance. Quand ils tombent, ou comme il leur arrive ordinairement, on voit alors combien ils avaient peu d'amis. Tarquin, à ce qu'on rapporte, dit qu'il n'avait distingué les faux amis d'avec les véritables que dans son bannissement, lorsqu'il n'avait plus de grâce à accorder ni aux uns ni aux autres. J'ai peine à croire qu'avec son orgueil insupportable, il n'ait jamais pu avoir un seul véritable ami. Si un tel homme n'était pas d'un caractère à pouvoir être sincèrement aimé, la situation brillante de certains hommes puissants n'éloigne pas moins d'eux l'amitié fidèle. La fortune n'est pas seulement aveugle elle-même, bien souvent encore elle rend aveugle ses favoris. Ils sont alors bouffis d'orgueil et d'insolence, et rien au monde n'est plus insupportable qu'un homme sans raison, environné de tout l'éclat de la fortune. Il n'est même pas rare de voir des hommes qui étaient auparavant de mœurs faciles changer tout à coup par les honneurs, le pouvoir, la prospérité, mépriser leurs anciens amis et former des liaisons nouvelles. Quelle folie pourtant à des hommes qui, par leur crédit et leur richesse, pourraient se procurer tant d'avantages de ne se procurer que ce qu'on a pour de l'argent, des chevaux, des valets, de superbes habits, des meubles précieux, et de ne pas songer à s'acquérir des amis qui sont, pour ainsi parler, le meilleur et le plus beau meuble de la vie. Lorsqu'on rassemble autour de soi tous les autres biens, on ne sait pourtant pour qui on les acquiert, pour qui on travaille. Ces biens-là deviennent souvent la proie du plus fort. La possession d'un ami, au contraire, est certaine et stable. En supposant même que les présents de la fortune nous restent, la vie ne saurait être agréable si on la passe dans l'isolement, loin de douceur, de l'amitié. Mais c'est assez parlé de tout cela, de tout ce qu'on lui doit.